Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité cette semaine a une impressionnante feuille de route. Gestionnaire d'expérience, il a, au gré du temps, touché à tellement de domaines qu'il serait difficile d'en faire la liste. Résumons en disant qu'il a toujours voulu contribuer de manière active au changement inhérent à l'évolution de la société. Aujourd'hui, il préside le Conseil des infrastructures, autrefois appelé l'Institut pour le partenariat public-privé, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de faire la promotion du développement des projets en financement alternatif et des projets d'infrastructure au Canada. Un immense plaisir que d'accueillir Roger Légaré. Bonjour.
Bonjour, Armand.
Vous présidez l'Institut, qu'autrefois on appelait l'Institut pour le partenariat public-privé, mais qui est devenu maintenant le Conseil des infrastructures. Qu'est-ce que c'est que cet organisme?
En fait, c'est un regroupement de gens qui accomplissent des choses et qui sont responsables de faire la motivation auprès du gouvernement pour qu'on réalise des projets, quel que soit le mode de réalisation. C'est évident qu'il y a à peu près 20% des grandes œuvres du Québec et du Canada qui doivent être faites en partage de risques avec l'entreprise privée et le gouvernement.
Parce que ces projets coûtent de plus en plus cher, les risques sont très élevés pour le secteur public, et donc on va chercher l'expertise du secteur privé en complémentarité.
Évidemment, mais aussi il y a qu'on a des inquiétudes quand on commence un grand projet. S'il y a eu une mauvaise planification, on sait quand on débute, mais on ne sait pas quand on se termine. Mm-hmm. Alors que si on le fait en partage de risques et que le réalisateur, le concepteur ou celui qui va prendre la responsabilité de maintenir l'œuvre, de l'entretenir pour une période de 20-25 ans est partie prenante de la construction, il est certain que la tension va être beaucoup plus forte et qu'on va arriver à bon port à la date qu'on avait convenue.
À titre d'exemple, il y en a eu ici des gros projets qui se sont réalisés en PPP, comme on dit.
Oui.
Si on en nommait quelques-uns.
Bien, écoutez, il y a d'abord la 25, l'autoroute 25, qui est un grand succès. L'autoroute 30, qui sert beaucoup au niveau de développement économique de la région. Et les grands hôpitaux qu'on vient de terminer, le deuxième pour la première phase qui vient de se terminer pour le CHUM. Le CUSUM est déjà terminé maintenant depuis 2 ans. Vous avez le CHSLD de Saint-Lambert qui a été fait de cette façon-là. La Maison symphonique de Montréal qui est un bijou au point de vue de l'utilisation pour le son. Alors, ce sont des réalisations récentes et on construit présentement le nouveau pont Champlain. Alors donc, tous des grands projets qui donnent du travail aux gens de la région, des embêtements aussi au point de vue circulation à l'occasion, oui. mais qui reste qu'on sait que les choses vont être livrées et qu'il n'y aura pas de dépassement de coûts parce que M. Gignac, qui est le responsable des versements des argents du gouvernement vis-à-vis de ces projets-là, s'assure que seulement quand c'est terminé, à l'intérieur des projets qui avaient été prévus dans les plans, là, on verse le montant d'argent.
On pourra parler de la gouvernance. On a aussi, bien sûr, comme c'est notre habitude, le plaisir d'entendre des pièces musicales qui nous sont proposées par nos invités. Et vous, M. Légaré, notre première pièce que vous nous présentez, est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous avez choisi The Platters?
C'est peut-être un souvenir de jeunesse. J'ai l'impression qu'avec mon épouse, on dansait assez régulièrement, différentes festivités. Et puis, les Platters, ça venait me chercher. Alors, quand vous m'avez demandé de présenter des pièces, c'est celle-là qui m'est venue à l'idée.
Et probablement que votre épouse a exaucé votre prière parce que vous y êtes avec depuis de nombreuses années.
quelques 56 ans.
Voilà.
When the twilight is gone, and no songbirds are singing, when the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay while I pray. My prayer is to linger of the day. In a dream that's divine, in blue, with the world far away, and your lips close to mine. Same for as long as we live, that you'll always be there at the end of my prayer. Notre
invité cette semaine, Roger Légaré, qui préside la destinée du Conseil des infrastructures. Si on parlait de la gouvernance, parce que vous êtes sans aucun doute au courant que certaines personnes vont critiquer parfois les projets en PPP en disant « Oh, le gouvernement assume les risques et le secteur privé assure les bénéfices ». C'est pas tout à fait comme ça que vous voyez les choses.
Non, je pense que si on choisit de réaliser une œuvre en partage de risques, c'est parce que d'abord, on veut s'assurer qu'il n'y aura pas de dépassement de coûts, que le gouvernement va être vraiment en contrôle de la façon dont les choses vont se faire. Et dans un sens, ceux qui critiquent souvent critiquent sans connaissance de cause. On a une grande responsabilité qui est celle de permettre à la population de mieux comprendre de quelle façon se partagent les risques, ceux qui sont les mieux placés pour les assumer. Par exemple, on est en train de travailler un gros projet pour le REM, c'est-à-dire le projet de la Caisse de dépôt pour le train électrique qui va faire le tour pour nous permettre de se rendre à l'aéroport plus rapidement. Eh bien, toute cette période de préparation, c'est pour nous assurer qu'au moment où on va se lancer dans la réalisation du projet, qu'il n'y aura pas de surprise, qu'on va pouvoir compléter l'œuvre à l'intérieur des temps.
Il est donc normal que ce genre de projet soit revu et corrigé plusieurs fois en cours d'étude. Le projet est une fois déposé, par la suite, il est revu, corrigé. Ça fait partie du processus naturel de ces projets-là.
Bien, c'est-à-dire que ça fait partie. C'est que avant d'arriver à signer le contrat, il faut s'assurer qu'on se comprend bien sur les modalités du contrat, que le consortium sait exactement dans quoi il s'embarque. Maintenant, la situation devient plus compliquée si on va à l'aveuglette. Récemment, on lisait beaucoup dans le journal de failles potentiellement existantes à l'intérieur de la construction du nouveau pont Champlain. Et moi, je disais, c'est une tempête dans un verre d'eau, parce qu'en réalité, vous construisez chez vous une salle de bain ou une nouvelle pièce, c'est certain qu'en cours de route, votre menuisier va découvrir que le matériau n'est pas tout à fait adéquat, qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Mieux vaut s'en rendre compte avant.
Ça fait partie des contingences.
Exactement, exactement. Alors donc, il ne faut pas se surprendre de ça. On ne veut pas se retrouver dans la même situation après 60 ans qu'on se retrouve présentement sur le pont Champlain, d'être obligé de changer les choses, d'accélérer, de dépenser une fortune pour le maintenir en service.
Alors, vous êtes de ceux qui croient profondément à la valeur de ces projets qui se réalisent en partenariat.
J'y crois. J'y crois parce que ma carrière a voulu que, au niveau de des télécommunications, je sois responsable de la transformation au point de vue des circuits de téléphonie, des enfouissements des câbles, ainsi de suite. Alors, j'avais connu ce que c'était que de respecter des horaires. Dans une entreprise privée, souvent, le temps, c'est beaucoup plus de l'argent, donc on fait attention davantage. Et donc, dans cet esprit-là, quand j'ai accepté la présidence du Conseil des infrastructures, c'était pour partager cette inquiétude avec les doers, avec ceux qui réalisent les choses.
On va pouvoir parler de votre carrière, mais probablement que ce pourrait être vous qui chantiez la prochaine chanson, interprétée par Fernand Robidoux, qui nous dit « Je croyais
». J'y croyais, oui.
À tout ce que tu disais, tu savais si bien les mots, je t'écoutais. Cette maison tant rêvée, perdue dans les bois, tu n'en parles plus. M'aurais-tu trahi, pourquoi je croyais? Tu me grisais d'un espoir qui me donnait chaque jour et chaque soir du bonheur à t'adorer. L'amour a vécu l'espace d'un instant, tes lèvres savaient trop tous les serments décevants. Tes grands mots troublants ont fait naître l'amour. Je me souviens trop de tes aveux d'un jour. Je croyais à tout ce que tu disais, tu savais si bien les mots, je t'écoutais. Cette maison tant rêvée, perdue dans les bois, tu n'en parles plus. M'aurais-tu trahi, pourquoi je croyais? Tu me grisais d'un espoir qui me donnait chaque jour et chaque soir du bonheur à t'adorer. Près de toi j'ai rêvé, je croyais, car je t'aimais.
Je croyais le grand succès de Fernand Robidoux, et avec nous, comme invité, Roger Légaré, président du Conseil des infrastructures. Vous avez évoqué un peu votre carrière dans les télécommunications. Si on regardait un peu le profil de cette carrière, qui est quand même, je disais en début d'émission, que si on regardait votre feuille de route, on en aurait probablement pour des heures à énumérer tout ce que vous avez fait. Mais vous avez eu quand même une carrière impressionnante dans le domaine des télécommunications, particulièrement avec Bell, BCE.
Oui, en fait, j'ai débuté cette carrière-là en 1957, alors ça date un peu, et je m'occupais de récupérer les argents pour les comptes en souffrance. Et évidemment, j'étais celui qui allait récupérer ou qui discontinuait les lignes ou des trucs comme ça, mais je me suis adonné être au bon endroit au bon moment. et d'avoir des personnes qui travaillaient avec moi qui m'ont convaincu qu'on pouvait faire une longue carrière dans une entreprise, même si c'était un monopole. Et le premier grand défi, après avoir été directeur de service, après m'être déplacé de Rivière-du-Loup à Chicoutimi, à Québec, à différents endroits où on transférait assez fréquemment avec Bell, M. de Grandpré me demandait de me rendre à Ottawa au moment où on changeait Bell pour BCE. Une aventure absolument extraordinaire. Travailler avec la CRTC dans un contexte où il ne fallait pas perdre de vue que les clients devaient bénéficier des nouvelles découvertes technologiques que nous avions, mais en même temps, les actionnaires devaient pouvoir récupérer les risques qu'ils prenaient à l'étranger.
De et vous perdiez votre monopole aussi.
Et il y avait dans l'air du temps, pour reprendre un peu au gré du temps, il y avait cet fait que oui, on allait changer le monopole de Bell pour permettre à des Rogers, à des TELUS ou à d'autres de venir partager cette assiette de clients. Absolument merveilleux.
Donc, vous vous êtes retrouvé au cœur de cette mouvance, de cette transformation. Quel était le rôle précis que vous aviez à jouer?
Moi, je devais convaincre la députation du Québec particulièrement, parce qu'ils étaient nombreux à ce moment-là au gouvernement, avec le ministère des Communications, du bien fondé de modifier les paramètres de responsabilité de Bell dans un contexte comme celui-là.
Qui était ministre à l'époque? C'était M. Fox?
C'était Francis Fox qui était Fox. Là, et Alain Gould, qui était un de vos confrères que vous avez bien connu, Alain, qui est décédé maintenant, mais qui était sous-ministre aux communications.
Mm-hmm. Est-ce que les pourparlers, dès le départ, se sont amorcés de manière harmonieuse ou les tensions étaient quand même très présentes?
Je pense que les tensions étaient très présentes. D'abord, faut connaître le caractère de ceux qui avaient à prendre les décisions pour savoir qu'il y avait des inquiétudes. Il y avait des certitudes qui s'affirmaient, par exemple, les responsables de Bell disaient la meilleure façon de faire les choses, c'est de telle façon. Le gouvernement avait des vues différentes. Et donc, partager ça, j'étais comme pris dans un feu roulant à Ottawa, essayer de concilier l'ego de ces personnes-là, et puis de m'assurer qu'en cours de route, personne n'y perdrait au change, qu'on allait pouvoir s'apprivoiser. Et ça a été une aventure qui devait durer 6 mois et qui a duré sur la colline parlementaire pendant une dizaine d'années.
On va peut-être prendre le temps de réfléchir à tout ce que vous venez de nous dire par cette belle pièce que vous nous proposez d'interpréter par Luciano Pavarotti, L'Ave Maria de Schubert. C'est une pièce inégalable.
Ah, il faut pas s'en passer.
Bien sûr, cette voix empreinte de soleil, celle de Luciano Pavarotti, proposée par Roger Légaré, qui est avec nous aujourd'hui, et qui nous parlait de ces négociations quand même assez vives avec le gouvernement, avec la députation québécoise, lorsque la transformation s'est effectuée dans le domaine des communications, et plus particulièrement pour l'entreprise Bell Canada. Aujourd'hui, avec le recul, quand vous regardez ce qu'est devenu cet amalgame de nombreuses entreprises, particulièrement au niveau des entreprises qui offrent la téléphonie par cellulaire. Le client ne s'y retrouve pas nécessairement beaucoup au plan des frais, au plan de la disponibilité de ce qui peut s'offrir. Est-ce que votre constat est quand même positif d'avoir fait cette transformation? Est-ce qu'il fallait nécessairement la faire?
On n'avait vraiment pas le choix parce qu'aux États-Unis, on avait déjà commencé à démanteler le réseau des communications, à permettre de nouvelles aventures sur le plan technologique. Il fallait faire plus avec moins. Il fallait être créatif dans nos approches. Il fallait plaire à la clientèle. Aujourd'hui, on ne considère pas la clientèle de la même façon que dans le temps. Dans le temps, c'était beaucoup plus humanisé. Les gens étaient approchés plus rapidement. Aujourd'hui, la technologie nous amène à appuyer sur différents boutons pour rejoindre la personne à qui on veut parler.
Je sens une certaine nostalgie dans votre propos.
Moi, je préférais beaucoup la période où il y avait cette possibilité de transmettre la chaleur d'une personnalité, que ce soit la commis de bureau ou la responsable, la téléphoniste, engagée à la surveillante qui s'assurait qu'en dedans de tant de secondes, on avait répondu au client, tout ça. Je m'ennuie de ces périodes-là, c'est évident. On place beaucoup plus aujourd'hui d'intérêt sur le retour des argents investis que sur l'appréciation de la clientèle.
Vous êtes fondamentalement un grand humaniste.
Je pense que j'aime le monde, oui, mais j'aime le monde parce qu'il me rend bien. Les gens avec qui vous transigez aujourd'hui, quel que soit le domaine, si vous êtes sincère, si vous partagez bien avec eux les objectifs que vous avez, ils vont vous recevoir très bien.
Alors, on va enchaîner avec cette autre proposition merveilleuse que vous nous avez faite, celle d'écouter le deuxième mouvement, marqué l'argot du concerto pour deux violons en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Et c'est le Concentus Musicus sous la direction de Nicolas Arnoncourt qui interprète le tout. À noter qu'une des violonistes, c'est Alice Arnoncourt, la fille même du directeur. Vous me disiez avant l'émission que c'est une pièce qui est difficile à retrouver.
Oui, pour l'apprécier à sa juste valeur, il faut prendre le temps qu'il faut et il faut la retrouver dans les endroits où on achète les disques. Alors moi, j'y tiens, je l'ai à la maison. Alors quand vous m'avez demandé quelle pièce je préférais, on peut pas passer de ça.
Alors merci de la partager avec l'auditoire.
Merci.